Lorsque l'on commente un passage de l'Évangile, il est toujours bon de le resituer dans son contexte. Nous sommes au début du ministère de Jésus, Jésus qui a passé la nuit en prière, Jésus qui a choisi ses apôtres et qui les enseigne. Nous sommes donc avec le discours qu'on appelle le discours sur la montagne ou le discours des béatitudes, nous sommes dans une pédagogie, dans une formation. Et vous avez dans deux évangiles différents ce discours sur la montagne. Chez saint Matthieu, il s'agit d'une série de 9 béatitudes, alors que chez saint Luc, que nous venons de lire, eh bien, il s'agit de 4 béatitudes et de 4 malédictions. Et bien souvent, les prédicateurs insistent davantage sur les béatitudes parce que pas toujours à l'aise avec les malédictions. On voit bien notre mentalité contemporaine n'aime pas trop maudire. En tout cas, la malédiction associée au Christ n'est pas forcément intuitive. Mais c'est justement sur ces 4 malédictions que j'aimerais méditer avec vous. Comment est-ce qu'il faut les comprendre? En fait, les malédictions dans l'Évangile, vous avez au moment des béatitudes, du discours sur la montagne, mais aussi à d'autres moments, Jésus prononce des malédictions par rapport aux pharisiens. Vous vous souvenez, par exemple, quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, hein, vous pensez avec votre science approcher les gens de Dieu, mais finalement vous les éloignez. » La malédiction, il faut la comprendre comme une parole de vie et non pas une parole de mort. Donnons un exemple contemporain. Quelqu'un qui, sur une route départementale, roulerait à 130 km/h, la Bible va dire, et l'Évangile va dire, c'est un mode rabbinique de procéder, « Malheur à toi qui roule à 130 km/h sur une route départementale, tu mourras. » C'est-à-dire que si la personne entend la malédiction 10 km avant le fait qu'il y a un obstacle sur la route, elle va ralentir. Mais si tu continues d'agir comme tu agis, eh bien ce sera le crash. Ce sera le crash forcément. Au fond, à travers les malédictions, le Seigneur met en garde et dénonce des attitudes mortifères. Et dénonce des manières de procéder qui sont mortifères. Attention, si tu continues d'agir comme tu agis, ce sera le crash pour ta vie personnelle, pour ta vie de couple, pour ta vie professionnelle, ta vie spirituelle. Et parfois, on est averti intérieurement qu'on n'est pas dans le bon chemin, mais il y a une forme de surdité qui fait qu'on n'écoute pas vraiment ce qu'on appelle les motions du Saint-Esprit. En nous, il y a des warnings qui s'allument, qui nous font dire « maintenant, ça c'est pas en place ». Mais parfois, il y a une forme de surdité, et les 4 malédictions que Jésus dénonce, c'est 4 surdités, c'est 4 manières mortifères de procéder. Et donc, en dénonçant l'aspect mortifère, il invite à choisir la vie. C'est donc dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Si je n'écoute pas ces voix intérieures, si je n'écoute pas ces avertissements intérieurs, si je n'écoute pas des paroles qui me sont dites, comme la parole de Dieu dans l'Évangile, mais vous le savez, en hébreu, le mot « parole » se dit « dabar », et « dabar », c'est aussi un événement. Il y a des événements qui nous avertissent. Des événements qui nous avertissent, et on peut parfois être sourd réel. On n'arrive pas à accepter que le Seigneur, à travers les événements comme à travers sa parole, nous avertisse pour nous détourner d'un chemin de mort, d'une attitude mortifère, pour choisir la vie. En quoi les malédictions prononcées par Jésus dans le discours de la montagne, dénoncent des attitudes mortifères? Malheur à vous les riches. Il ne s'agit pas de dénoncer des personnes qui sont riches. Jésus avait des amis riches, etc. Il s'agit de dénoncer l'argent comme une idolâtrie. C'est-à-dire que On ne voit que par rapport à ce prisme. On ne laisse pas une place ouverte par rapport à d'autres réalités qui nous permettraient précisément d'accueillir aussi le réel et d'accueillir Dieu dans ce réel. On ne voit que par ce prisme, le prisme de l'argent. Hein, malheur à vous, quand on dit le bien de vous, etc. Eh bien, le Seigneur nous dit à travers ça, lorsque tous les hommes disent du bien de vous, malheur à vous quand vous vivez par procuration sous le regard de quelqu'un d'autre et vous êtes en permanence en quête d'acquiescement, d'approbation par rapport au regard des autres. Ben, vous vivez par procuration, vous n'êtes pas vraiment vous-même. C'est quelque chose de mortifère parce que vous êtes dans une dépendance d'une volonté d'appropriation, une volonté de validation de votre manière d'agir, de votre manière de faire, hein, alors que voilà, ouvrez-vous à autre chose, à une autre réalité, et que même si on vous critique, et a fortiori critiqué parce qu'on appartient aux disciples de Jésus, ben cette critique-là, elle vous ouvrira le cœur, elle vous accepterait, et que aussi y ait des personnes déjà qui ne pensent pas du bien de vous. Et le fait qu'il y ait des personnes qui ne pensent pas du bien de nous, eh bien, fait que on reste dans une humilité. Hein, alors qu'il y a elle aussi une forme de toute puissance. Hein, ces quatre malédictions, ces quatre formes de toute puissance. Hein, de même, être repu. On veut être repu, ben, malheur à vous, vous qui êtes repu, vous aurez faim. C'est-à-dire, malheur à vous qui êtes dans une attitude qui ne laissait pas la place au manque, voire qui voyait le manque comme une menace, qui voyait la limite comme une menace, etc. Alors que le fait d'être repu, hein, eh bien, fait que vous ne laissez pas la place à Dieu aussi dans votre vie, vous ne laissez pas la place à l'autre, vous ne laissez pas la place à l'altérité. Ces quatre formes de malédiction, elles, ce sont des malédictions parce qu'elles dénoncent des manques d'accueil de l'altérité. Que l'autre soit autre que moi, hein, que je laisse une place pour quelque chose qui n'est pas satisfait. Je veux, l'autre n'a pas à me combler, les choses matérielles n'ont pas à me combler. Hein, de même, la nourriture, etc., n'a pas à me combler, remplir toutes les interstices de désirs que je peux avoir. Parce que ça, c'est mortifère. Ça, c'est mortifère. Je trouve ça intéressant de dire, voilà, comment Jésus, au fond, et en même temps que les béatitudes, et c'est symétrique, hein, vous reprenez le texte, c'est symétrique. C'est-à-dire que la première béatitude est au présent, la première malédiction est au présent, et puis à chaque fois, ça parle de la question de l'argent, ça parle de la question de la faim, hein, ça parle de la question des pleurs, ça part de la question aussi de le fait du regard des autres, etc. Donc à chaque fois, il y a une symétrie entre béatitude et malédiction. Et c'est une manière de pédagogie. Hein, le Seigneur, on est au début du ministère de Jésus, le Seigneur enseigne ses apôtres et leur dit, oui, la béatitude, en regard. Il y a aussi une malédiction. Soyez attentifs quand vous contemplez la béatitude de découvrir qu'il y a aussi une mise en garde en creux. Il y a aussi une mise en garde qui vous est lancée de façon à ce que vous puissiez changer de direction si vous avez pris la mauvaise direction et ne pas être dans une sorte de surdité, d'aveuglement intérieur qui fait qu'on n'accepte pas au fond la mise en garde qui nous est faite de la part du Seigneur, et on est dans une attitude d'enfermement sur nous-mêmes. Hein, donc c'est intéressant cette pédagogie que le Seigneur donne à ses disciples et qui nous donne à nous aussi de façon différente, parce que cette pédagogie, le Seigneur invite au fond à l'humilité. Il invite à l'humilité ses disciples. Il invite à se laisser questionner dans leur manière d'agir et à être toujours attentif à accueillir la limite, le manque, comme une invitation à un au-delà, à un ailleurs, à une communion. Et nous aussi, dans l'Eucharistique, nous célébrons. Nous sommes là au cœur même d'une pédagogie. L'Eucharistie, c'est une pédagogie. Parce que précisément, nous découvrons dans la manière que Jésus a de se rendre présent, à travers la fragilité de l'hostie, nous découvrons eh bien, la manière dont nous-mêmes nous avons à nous comporter face au réel, accueillir le réel, être à l'écoute du réel. Vous le savez, le premier commandement, c'est écoute Israël. Le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Le fait d'écouter, c'est le premier commandement. Et la surdité, c'est l'autre nom du péché. Le non-accueil du réel, l'enfermement sur soi, c'est l'autre nom du péché. Donc, c'est intéressant de dire que cette malédiction, elle est aussi une source de vie. C'est une parole qui est source de vie. Le pire, ce n'est pas la malédiction, c'est l'absence de parole. L'absence de parole. Hein, malédiction, donc diction parole, donc le Seigneur nous dit quelque chose. L'absence de parole, c'est ce qui est certainement le plus mortifère. Je vous renvoie à Caïn et Abel. Caïn et Abel, Caïn qui entraîne son frère à l'extérieur et l'emmène au champ, se précipite sur lui et le tue, sans aucune parole. L'absence de parole permet, au fond, permet la violence. La malédiction, comme elle est une parole qui met en garde, fait descendre la violence. Vous voyez, permet de détendre aussi la relation, permet de cette mise en garde, cette correction, correction fraternelle, correction peut-être en couple, parce qu'on a tous un angle mort dans notre manière d'agir, on n'arrive pas forcément. Il y a une forme de surdité en chacun. Hein. Le péché originel, c'est une surdité aussi, et ses conséquences en nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on commence l'Eucharistie comme une pédagogie, par l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, c'est intéressant de dire, tiens, la malédiction qui est parole, elle aide à faire baisser la violence. Elle permet une communion. Elle permet. Une écoute de l'autre, une écoute du réel. Alors puissions-nous aussi être attentifs dans notre manière d'agir comme disciples de Jésus, à choisir la vie et à nous laisser interpeller par les béatitudes et par les bénédictions que nous venons d'entendre.